Lorsqu'on étudie la pensée des hommes, que l'on appelle des penseurs ou des philosophes, dans l'espoir de résoudre le grand problème de la vie, de sa signification, de son rôle, de sa destinée, bref, le problème que nous sommes tous à nos propres yeux, on s'aperçoit bien vite qu'il est inutile de chercher parmi eux un accord unanime. On peut presque dire autant de philosophies différentes que de philosophes. De tout temps, les hommes se sont interrogés. Certains ont élaboré des théories, ce qui a permis à d'autres de les combattre au moyen d'autres théories. C'est ainsi qu'avec un tel on se met à espérer, qu'avec un tel autre on se désespère. Mais toujours on cherche, on tâtonne le long d'un sentier étroit et ténébreux, avec pour seule lumière la raison humaine, pauvre lanterne qui ne dispense qu'une lueur incertaine. Et puis l'on se tourne vers cet autre penseur, cet autre philosophe qui s'appelle Paul. Tous ses écrits sont aussi un long commentaire sur la signification et le sens que doit avoir la vie. Ils sont tous consignés dans le Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible. Alors, on s'aperçoit que le ton est différent. C'est soudain comme un jaillissement de lumière. Il n'y a plus de tâtonnement incertain. Ce sont les certitudes, les convictions, la joie limpide de celui qui a trouvé, qui sait, qui voit enfin. Tous ses écrits sont ponctués de phrases qui expriment cet homme-là, cet homme que nous voudrions être, cet homme qu'il voudrait que nous soyons aussi, cet homme que nous pouvons être. C'est lui qui écrit à l'Église des Romains « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans sa lettre aux Corinthiens, c'est la même confiance tranquille qu'il exprime, la même conviction inébranlable, définitivement établie. Après avoir expliqué quelles épreuves il a traversées dans ses efforts de diffusion de la connaissance de Dieu et du Christ, il déclare « Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. » Vers la fin de sa vie, alors que prisonnier de César à Rome, on s'attendrait à le voir quelque peu fléchir dans ses convictions et entamer dans son enthousiasme devant la terrible perspective de la mort, c'est toujours un homme debout qui parle, un homme qui n'a pas à remettre en question les éléments de sa foi, comme certains philosophes qui sont amenés à remanier telle théorie ou à abandonner telle autre. Lui, au contraire, s'exprime toujours avec cette ferme assurance qui a caractérisé toute sa vie de chrétien. « Je ne rougis pas de ma nouvelle épreuve », écrira-t-il à Timothée, son jeune converti, « car je sais en qui j'ai mis ma foi. Et j'ai la conviction qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Quelle admirable confession de foi! Sentez-vous comme moi, chers amis, la force et la confiance qui se dégagent de cette attitude, et combien elle est différente et éloignée des affirmations sans cesse contradictoires et changeantes des hommes à travers les siècles. Je ne sais quelle tradition, quelles habitudes, quelle inhibition, quelle crainte, quel doute ou quelle honte nous empêche encore de posséder cette même conviction, cette même assurance, cette même paix. Car tout cela est à notre portée. Que celui qui a soif vienne, dit la parole. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Ou se pourrait-il que nous n'ayons fait du Christ et de son évangile qu'un accessoire social, et que toute notre foi repose en réalité sur nous-mêmes, ou sur l'homme en général, sur la société peut-être, ou la science, ou que sais-je encore? Mes amis, la parole nous adjure de revenir à notre bon sens. Ne nous laissons plus diriger par l'habitude, tyranniser par le « qu'en dira-t-on » ou conduire par le souci servile de faire comme tout le monde. Comprenons enfin que l'appel du Christ s'adresse à chacun d'entre nous personnellement et qu'il attend de chacun de nous une réponse personnelle et résolue à cet appel. « Souviens-toi de Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, ressuscité des morts, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Voici encore une certitude. Voici encore une conviction fermement exprimée. Elle nous concerne personnellement. Paul semble ici résumer en quelques phrases courtes toute la signification et la portée de la vie chrétienne. Il affirme d'abord que si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. J'insisterai surtout sur ce premier point, car Paul parle ici d'une notion trop méconnue dans le monde chrétien et qui pourtant nous aide à comprendre d'une manière poignante en quoi et comment la mort de Christ peut devenir pour moi un événement personnel. Mais mourir avec Christ, quelle exigence, quel absolu! Essayons de comprendre au moyen des autres textes contenus dans le Nouveau Testament sur ce même sujet. Il faut toujours essayer d'éclairer un texte biblique au moyen d'autres textes bibliques. Christ est venu sur terre pour sauver l'homme de sa condition désespérée. Il est vrai que l'homme ne se sent pas perdu. C'est ce qui rend si difficile la prédication de l'Évangile. Mais il suffit de jeter un bref coup d'œil à l'état du monde pour se rendre compte que le diagnostic de Dieu correspond à la réalité. La souffrance et la guerre sont des signes sensibles de la réalité du péché qui est essentiellement désordre et désobéissance aux lois de Dieu. Or, cet homme abîmé, il s'agit de le refaire par l'intérieur, non pas de le rafistoler au moyen de quelques règles de morale appliquées à son mal, mais de le recréer. C'est ce que la Bible appelle la conversion. C'est ainsi que l'apôtre Paul établit un contraste entre le vieil homme qui est en nous, c'est-à-dire notre nature humaine déchue, déréglée, et l'homme nouveau que Dieu peut recréer en nous. Jésus dira d'ailleurs clairement « Il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est ici toute la portée et la signification du baptême. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'appelle le baptême de la régénération. Écoutez en quels termes il rappelle aux Romains la signification de leur baptême. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. » Pour que le baptême réalise tout cela, il faut évidemment qu'il soit pris par des croyants ayant déjà atteint au moins l'âge de raison. Autrement, cet acte serait réduit à un rite purement extérieur. Car il faut que celui qui s'approche du baptême soit à même de comprendre qu'il s'approche du calvaire, que ce qu'il va faire est essentiellement un acte de foi, que dans le baptême, la mort du Christ va devenir pour lui un événement personnel auquel il va s'associer, le moyen pour lui d'accéder au sang purificateur qui va le laver de tout péché. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Chers amis, avez-vous réalisé cette association à la mort du Christ? Sinon, vous ne devez pas tarder à exprimer votre foi, à la réaliser même, comme la Bible vient de l'expliquer. Il y a un autre aspect à l'idée de mourir avec Christ, un aspect non moins important que celui que nous venons de considérer, et c'est le fait que cette mise à mort du vieil homme en nous, effectuée au baptême, doit se poursuivre toute la vie, car il s'agit d'une longue agonie. C'est que, voyez-vous, le chrétien est un homme qui a décidé de remonter le courant, au lieu de se laisser emporter par le flot impétueux de sa vieille nature et du monde en général. Il s'agit donc d'une lutte qui nécessite effort, vigilance, prudence et lucidité. Écoutez comme Paul encourage le chrétien dans ce sens. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ce sont là des certitudes fondamentales. Ne commettons pas la folie de les rejeter. Ce serait refermer les seules portes qui s'ouvrent sur la lumière et sur la vie.